Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 8 janvier 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Toutes les sanctions anti-iraniennes devront être levées immédiatement à des égards. C'est une injustice flagrante, irrationnelle et totalement stérile contre la nation iranienne, a souligné le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, dans un discours très important prononcé de ce vendredi 8 janvier. Les événements auxquels nous avons assisté aux États-Unis montrent à quel point la démocratie occidentale est faible et défaillante, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. La Syrie dénonce les attaques israéliennes répétées contre son territoire. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a prononcé un très important discours à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement du 9 janvier 1978 dans la ville sainte de Qom. Un discours diffusé en direct à la télévision et à la radio. L'honorable Ayatollah Khamenei a remercié le peuple iranien pour le mouvement épique qu'il a créé à l'occasion du premier anniversaire de la mort en martyr et du général martyr Rassem Soleimani. Au sujet des sanctions, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné toutes les sanctions anti-iraniennes devront être levées immédiatement car c'est une injustice flagrante, irrationnelle et totalement stérile contre de toute la nation iranienne. Ceci étant, notre économie devra être fondée indépendamment des effets des sanctions et pouvoir les surmonter au point que les sanctions perdent leurs effets. C'est une perspective parfaitement possible et accessible vu nos énormes potentiels intérieurs. C'est ce qui renvoie d'ailleurs à l'économie de la résistance, a souligné l'honorable l'Ayatollah Khamenei avant d'ajouter. Quant à notre influence régionale, eh bien, l'Iran a le devoir de renforcer ses amis, ses fidèles et de ses alliés. Notre présence est d'ailleurs stabilisatrice, comme nous l'avons prouvé dans le dossier de lutte contre Daesh et le terrorisme. Et que de cela soit clair, notre présence est pérenne et elle se poursuivra, à marteler l'honorable Ayatollah Khamenei. En termes de nos capacités balistiques, a-t-il de souligner, plus jamais de nous permettrons qu'un énergumène comme Saddam frappe nos villes par des missiles ou nous bombarde. Dans les années 80, Saddam tirait à la faveur de l'aide occidentale ses missiles depuis Bagdad contre Téhéran et envoyait ses MiG-25 nous bombarder. Or, notre puissance militaire est aujourd'hui en sorte que l'ennemi doit obligatoirement en tenir compte. Et puis, l'avenir de l'accord nucléaire ou encore nos engagements dans ce cadre auquel nous avons renoncé et donc surtout l'enrichissement à 20%, je le dis très clairement, l'Iran n'a ni hâte ni insistance que les États-Unis reviennent à l'accord. Notre exigence avant toute autre chose est celle-ci, la fin immédiate des sanctions, car c'est le droit usurpé de l'Iran et de toutes les nations qui devrait être restitué via la levée des sanctions. C'est à cette condition que le retour des États-Unis au plan global d'action conjoint prend sens. Sans cette levée de sanctions, le retour US pourrait même s'avérer nuisible. J'ai d'ailleurs communiqué des instructions en ce sens à l'exécutif et au et législative, a souligné l'honorable Ayatollah Khamenei. La décision du Parlement et du gouvernement de reprendre l'enrichissement à 20% est une décision logique et rationnelle, et nos désengagements à titre du plan global d'action conjoint est justifié. Si les États-Unis ils retournent à leurs engagements, l'Iran en fera autant, a conclu l'honorable Ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique. Les événements auxquels nous avons assisté aux États-Unis montrent à quel point la démocratie occidentale est faible et défaillante et n'a pas de fondement solide. Nous avons vu que dans ces pays, malheureusement, malgré les progrès dans le domaine de la science et de l'industrie, le populisme gagne du terrain, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. Hassan Rouhani, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration des projets nationaux, a poursuivi, une fois arrivé au pouvoir, une personne malsaine provoque de nombreux problèmes aussi bien pour son pays que pour le monde. J'espère que cela va servir de leçon pour le monde entier ainsi que pour les prochains dirigeants de la Maison Blanche, a souligné Hassan Rouhani. Pour le président iranien, les Américains doivent revenir aux conditions admissibles par et pour la communauté internationale, à savoir la raison et le droit. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que les progrès de l'Iran en matière nucléaire sont tels que nous pouvons facilement enrichir tout pourcentage, même au-dessus de 40% ou 60%. Nous sommes capables aujourd'hui d'enrichir jusqu'à 90%, a-t-il souligné. Selon la loi adoptée par le Parlement iranien, si le besoin se situe dans l'enrichissement supérieur à 20%, l'Organisation de l'énergie atomique est autorisée à le faire, a-t-il affirmé, tout en annonçant que cette organisation examinerait les besoins du pays en la matière. mandat d'arrêt contre le président finissant américain Donald Trump par la justice irakienne. Un tribunal irakien a délivré un mandat d'arrêt national contre le président américain sortant Donald Trump dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Abu Mahdi al-Muhandis, de chef adjoint des unités de mobilisation populaire a assassiné l'année dernière lors d'une frappe terroriste à l'aéroport de Bagdad aux côtés du général martyr Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. Pour rappel, en juin déjà, l'Iran avait émis un mandat d'arrêt et réclamé la délivrance d'une notice rouge auprès d'Interpol contre de Trump pour l'assassinat du général martyr Soleimani. La Syrie dénonce les attaques israéliennes répétées contre son territoire. Le ministère syrien des Affaires étrangères a affirmé que la nouvelle agression par l'entité d'occupation israélienne contre les territoires syriens et que son terrorisme d'État, qui avait été récemment accentué simultanément avec des attaques terroristes contre les moyens de transport civils dans le désert syrien, font preuve de la coordination entre le terrorisme israélien et le terrorisme takfiriste. Dans un message adressé au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère syrien des Affaires étrangères a fait noter que les autorités de l'ennemi israélien avaient mené une nouvelle attaque contre le territoire des Syriens dans une transgression de la résolution du Conseil de sécurité relative à la séparation des forces entre les deux parties. La République arabe syrienne réaffirme une fois de plus que la persistance d'Israël dans sa ligne hostile et grave démontre la coordination entre les trois occupants israéliens, turcs et américains, a souligné dans son communiqué le ministère iranien syrien des affaires étrangères. Il a réclamé au Conseil de sécurité de prendre des mesures décisives et immédiates afin d'interdire la répétition de ces attaques terroristes israéliennes, d'obliger Israël à respecter ses résolutions relatives à l'accord de séparation des forces et de demander des comptes pour son terrorisme et ses crimes contre le peuple des Syriens. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. C'était le 8 janvier de 2020 que l'Iran a riposté à l'assassinat lâche du général martyr Soleimani par les États-Unis en lançant une attaque au missile contre la base américaine d'Ain al-Assad en territoire irakien. En fait, l'Iran a riposté en dépit de tous les avertissements lancés par les autorités américaines comme quoi s'il y avait une riposte du côté de Téhéran, il va y avoir en fait une fermeté sans pareil de la part des autorités américaines, de la part en fait de Washington. En dépit de toutes ces menaces et de tous ces avertissements, l'Iran a lancé cette attaque
attaques aux missiles contre la base d'Ain al-Assad, abritant les forces américaines en Irak. Et l'Iran est allé plus loin en assumant la responsabilité de cette attaque, en revendiquant cette attaque aux missiles contre cette base américaine. Quelle était la portée de cette attaque aux missiles de l'Iran contre la base d'Ain al-Assad, c'est des ripostes de Téhéran, et quelles en étaient les conséquences, d'autant plus que, il faut préciser ce point, les Américains n'ont osé rien faire après cette riposte de Téhéran contre l'Iran, parce que l'Iran avait transmis ce message aux autorités américaines comme quoi s'il y aura le moindre agissement du côté des États-Unis, la deuxième riposte de Téhéran sera encore beaucoup plus foudroyante et cuisante. C'est de ce sujet qu'on va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, le débat, avec deux invités. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas et capitale syrienne un juriste français spécialiste et des questions internationales. Il s'agit de Maître Arnaud Develet. Monsieur Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité. C'est toujours un plaisir.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris un autre juriste français spécialisé des questions internationales. Il s'agit de Maître Elie Hatem. Maître Hatem, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, aux téléspectateurs, à mon confrère Arnaud Develet. Et merci de m'avoir invité.
Et Maître Eliatem, vous êtes en fait en forme et vous êtes dans votre assiette aujourd'hui. Ça se voit clairement, Maître Hatem. Eh bien, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet de Maître Hatem. L'Iran a riposté à cet assassinat de lâche du général martyr Soleimani, qui a été en fait tué par les Américains lors d'une frappe terroriste à l'aéroport de Bagdad. Et c'était en janvier 2020. Et quelques jours plus tard, il y avait cette riposte foudroyante de l'Iran. Et quelle était la portée et la conséquence, si vous voulez, de cette riposte de Téhéran, Maître Hatem, s'il vous plaît?
Écoutez, cette riposte de Téhéran, il faut le dire, elle a été faite d'une manière en respectant le droit international public. Et je m'explique. Et c'est ce respect du droit international public qui a empêché la société internationale de condamner cet acte de la part de l'Iran. Donc pourquoi est-ce que cette riposte de la part de l'Iran est considérée comme étant en quelque sorte légal ou licite? Je dirais pas tout à fait légal, mais licite. Parce qu'il y a un principe, qui est celui du non-recours à la violence dans les relations internationales. Et s'il s'agit même d'une agression, il ne faut pas riposter directement et faire de représailles sans passer par un organe central, qui est celui qui doit réglementer la société internationale, qui sont les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, si l'Iran devait passer devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander une autorisation ou demander une action de la part du Conseil de sécurité, cela n'aurait pas été possible pour la simple raison que les États-Unis font partie du Conseil de sécurité. Ils sont parmi les 5 membres dotés d'un droit de veto, c'est-à-dire empêcher toute résolution du Conseil de sécurité permettant soit à l'Iran, soit à une force internationale, de prendre des mesures pour, rétablir cet équilibre et puis donc répondre à cet acte agressif de la part des États-Unis. Parce qu'il faut qualifier que cet acte terroriste de la part des États-Unis est un acte internationalement illicite parce qu'il s'est attaqué d'une manière inexplicable, d'ailleurs juridiquement, au général Soleimani. Par conséquent, l'Iran était tout à fait dans son droit de riposter compte tenu de cette impossibilité d'avoir un recours aux Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Que cette riposte, ces représailles, qui en théorie ne sont pas légales, mais ils sont licites dans ce cas particulier, et elles sont proportionnelles à l'attaque, autrement dit même moins, je dirais fort, que l'attaque qui a visé une personnalité politique sans aucun motif. Et là, l'Iran est revenu, en quelque sorte, pour rétablir le droit, rétablir cet équilibre, en s'attaquant à une base militaire américaine qui, comme on le sait d'autant plus, y est à encourager cette vague, je dirais, de terrorisme et cette vague d'islamistes, c'est-à-dire de ceux qui veulent instrumentaliser la religion à des fins politiques et qui ont permis la création de ces groupes tels que Daesh ou bien encouragé également au front al-Nusra. Et ce n'est pas moi qui le dis, d'ailleurs c'est le secrétaire général, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui avait demandé d'ailleurs aux alliés, c'est-à-dire des États-Unis à Israël, d'arrêter leur soutien à al-Nusra. Et c'est le président sortant, Donald Trump, qui, lors de sa campagne électorale, avait indiqué que Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, est une création, en fait, des services de l'administration de l'ancien président Obama. Et cela a été d'ailleurs confirmé dans un livre qui intitulé « Hard Choices » de Madame Hillary Clinton, qui avait également, lors de sa publication dans cet ouvrage-là qu'elle a publié pendant la campagne électorale, a reconnu également ce fait.
Et Maître Develet, venait d'entendre les explications, l'analyse de votre confrère, de Maître Eliatem. Votre analyse, s'il vous plaît.
Bien, écoutez, oui, je partage l'analyse de mon confrère dans le sens où il y a seulement deux exceptions à l'usage de la force dans le contexte de la Charte des Nations Unies. C'est soit vous avez l'autorisation du Conseil de sécurité. Maître Atem a parfaitement souligné qu'il eût été vain pour l'Iran de rechercher l'approbation du Conseil de sécurité dans la mesure où les États-Unis, en tant que membre permanent, auraient de toute évidence imposé leur veto. L'autre solution, c'est l'article 51 de la Charte qui permet effectivement l'autodéfense pour peu que cette dernière soit proportionnée et, exécutée de manière plus ou moins spontanée. Dans le contexte qui nous intéresse, effectivement, l'Iran a parfaitement agi dans le cadre de ses prérogatives juridiques au niveau du droit international. Gardons à l'esprit que tout à fait récemment, d'ailleurs, à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat du général Soleimani, le rapporteur spécial pour les exécutions extrajudiciaires, Madame Agnès Callamard, a elle-même rendu un rapport établissant cet assassinat comme étant illégal. Donc, rétroactivement, les Nations Unies se sont prononcées. Certes, ce sont des avis consultatifs qui ne lient pas les États membres en tant que tels, mais les rapporteurs spéciaux sont des experts qui n'ont absolument aucun lien de conflit d'intérêt et qui sont justement recrutés pour leur indépendance et leur expertise en la matière. Donc il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Je rajouterais que Ayman Soleimani était invité par le gouvernement à Bagdad dans le cadre justement d'une mission de pourparler pour essayer de faire baisser la tension, sachant qu'il y a tout un contexte qui mène à cet assassinat. Nous avons eu une reconstitution des événements avec des attaques sur les baraques des communautés populaires irakiens par des éléments qui visiblement ont été soutenus par les États-Unis. Ceci a entraîné une réaction en chaîne et on a souvent tendance à l'oublier, mais cet assassinat n'est pas un assassinat qui a lieu dans un vase clos, si je puis dire. Il fait partie d'une escalade, d'une mise en œuvre d'une opération visant surtout à empêcher les nations de la région de coordonner leur combat commun contre le terrorisme. Et en cela, le général Soleimani était lui-même visé par les Occidentaux parce qu'il avait réussi à coordonner toutes les forces de la région avec des résultats spectaculaires.
Maître Atem, après la Seconde Guerre mondiale et les pays qui étaient considérés comme les vainqueurs, c'était en fait tissé un précis, celui du vainqueur, c'est-à-dire le prestige du vainqueur. Maître Eliatem, peut-on dire que de par cette riposte de Téhéran, de cette attaque au missile contre la base militaire américaine en Irak, une attaque qui a été revendiquée ouvertement par l'Iran, ce prestige des États-Unis a été brisé?
Écoutez, c'est un coup qui n'était pas attendu par les Américains qui, depuis, en particulier à la fin de la bipolarisation et puis surtout depuis la conférence de Dayton qui avait mis un terme à la guerre en ex-Yougoslavie, se sont érigés en gendarmes du monde et en quelque sorte en superpuissance. Même Moscou s'est trouvé derrière les États-Unis après l'effondrement de l'Union soviétique. Donc les Américains ne s'attendaient pas à voir une nouvelle puissance qui va pouvoir les attaquer et puis réparer en fait cet acte illicite en ayant recours à la légitime défense, comme l'a très bien indiqué mon confrère Arnaud Develay, en application des dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, Effectivement, on peut croire aujourd'hui qu'il y a une modification, un bouleversement de cet équilibre des puissances sur la scène internationale et il y a l'émergence d'une nouvelle bipolarisation. Cette nouvelle bipolarisation, je l'ai toujours répété, je l'ai toujours dit, il y a cet ancien axe de l'ancien monde libre qui était présidé ou dirigé, je dirais, par les États-Unis, avec certains pays occidentaux, d'autres pays du monde, y compris d'ailleurs l'Iran. Et puis, on avait un autre axe, c'était l'axe soviétique, et c'était le monde, en fait, soviétique. Or, aujourd'hui, petit à petit, à la fin de cette bipolarisation et l'émergence, en fait, des États-Unis, qui se sont retrouvés au-dessus des lois, et ne respectant pas du tout ou plus du tout le droit international public, nous avons vu que cet axe qui était celui de l'ancien monde libre est devenu une sorte de monde dictatorial, sans un dictateur apparent, avec pas mal de difficultés d'expression d'ailleurs, ou même, d'idées. C'est qu'on n'a plus le droit de penser, un manque de liberté de penser dans ces anciens pays qui étaient considérés l'ancien monde libre. Et donc, un monde dictatorial, un monde qui est sous la gouvernance des États-Unis et des lobbies qui, en fait, agissent sur la politique étrangère américaine, d'une part, et d'autre part, nous avons vu l'émergence petit à petit, c'est-à-dire progressivement, d'un nouveau monde libre, c'est-à-dire ce monde libre qui respecte, comme toujours, le droit international public, qui veille au respect de cette réglementation, de ces règles de droit international public, et puis du respect également de la souveraineté des États, de l'indépendance, de l'équilibre international, et puis de l'autodétermination et la non-ingérence des États dans les affaires des autres États. Eh bien, cet axe-là est constitué aujourd'hui, de plus en plus, on l'a vu s'affirmer, par Moscou, qui était l'ancienne capitale du monde soviétique, qui était opposée au monde libre. Aujourd'hui, elle est à la tête de ce monde libre, avec l'Iran, mais également rejoint par la Chine, et nous espérons d'autres pays rejoindre cet axe du bien, cet axe, de ce nouveau monde libre, avec l'Inde, éventuellement, qui pour le moment est sous l'emprise américaine, mais elle aspire également à rejoindre ce nouveau monde libre, c'est-à-dire ce monde du respect de la loi. Et c'est un monde, c'est un axe qui va mettre un terme à cette jungle internationale à laquelle les différentes actions des États-Unis, depuis leur intervention d'ailleurs en Irak, avec ce jeu qu'ils ont fait en créant une zizanie entre le Koweït et l'Irak, et par la suite la guerre en ex-Yougoslavie, et j'en passe. Donc nous espérons que cet acte de la part donc de l'Iran puisse démontrer que les États-Unis ne sont plus cette superpuissance, et c'est ce qui se démontre aujourd'hui avec les événements qui ont lieu dans ce pays qui se dit civilisé, qui se dit démocratique, qui se dit libre et qui devient véritablement une république bananière.
Maître Develay, si j'ai bien suivi Maître Hatem, l'une en fait des conséquences de cette riposte de Téhéran, de cette attaque au missile de l'Iran contre la base américaine d'Ain al-Assad en Irak était de démontrer en fait au monde entier que les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance, la superpuissance irréfutable du monde, parce que l'Iran a attaqué une base américaine en Irak, bien sûr en réagissant à l'assassinat lâche du général martyr Soleimani, et a revendiqué ouvertement cette attaque contre la base américaine.
Oui, tout à fait. J'ajouterais surtout que l'Iran, par sa capacité à se défendre, et se défendre de manière, si je puis dire, éclatante, a mis fin au mythe d'invincibilité des États-Unis, dans un premier temps, et surtout a mis fin à ce sentiment d'impunité des États-Unis, parce que, comme le soulignait Ben Fratem, la fin de la guerre froide a vu cette décennie durant laquelle les États-Unis se considéraient comme l'hyperpuissance, pour paraphraser le terme utilisé par l'ancien ministre des Affaires étrangères français Hubert Védrine, déconcernant. Mais surtout qu'il faut garder à l'esprit que le droit international public n'a trait, si vous voulez, que dans la mesure où les États puissants de la planète, qui constituent donc la communauté des nations, respectent de par leurs agissements et de par leurs déclarations les accords, les traités et le droit coutumier international. Or, à partir du moment où les États-Unis se sont sentis affranchis d'avoir, si je puis dire, à se comporter comme un État responsable et surtout respectueux du droit international à l'époque, comme ça pouvait être le cas à l'époque de la guerre froide, nous avons assisté à une espèce d'émancipation des États-Unis du droit qu'ils avaient eux-mêmes pensé inaugurer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec des conséquences catastrophiques. Puisqu'à partir du moment où vous ne respectez pas, vous, l'État qui doit donner, si je puis dire, qui se proclame comme étant la métrique, si je puis dire, le paragon moral de l'ordre international, et vous commencez à vous comporter comme un brigand, vous créez des précédents et vous dilapidez, si je puis dire, le tissu légal international qui devrait gouverner les relations internationales, avec des conséquences très graves, puisque les États-Unis n'ont eu de cesse non seulement de détricoter les traités régissaient les relations internationales, mais s'en sont eux-mêmes retirés les uns après les autres en imposant des exceptions complètement iniques et unilatérales et en envoyant le message, si je puis dire, au reste du monde que, indépendamment des textes, des traités et du droit coutumier qui régissaient ces relations, les États-Unis s'en accommoderaient en fonction de leurs intérêts propres, ce faisant créant une situation d'instabilité et, comme le disait Maître Hatem, effectivement, un climat de jungle. Donc il est à espérer effectivement que maintenant le retour du monde multipolaire sera en mesure de rééquilibrer, si je puis dire, les rapports de force, puisque le droit international public, disons-le pour nos téléspectateurs, est avant tout un rapport de force, et que ce rapport de force sera, si je puis dire, le granit sur lequel on pourra anticiper un retour au légalisme qui devrait avoir lieu normalement dans un monde civilisé.
Maître Hatem, nous arrivons presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Un dernier mot pour conclure notre débat en une minute, s'il vous plaît.
Écoutez, c'est que, comme mon confrère Arnaud Develay l'a rappelé, il faut espérer le retour à une société internationale régie par le droit et les principes du droit international public, c'est-à-dire une société où prime le droit sur l'opportunité politique. Ce que feu Boutros-Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a toujours voulu et avait insisté à le faire, et malheureusement, il a été empêché de le faire parce qu'il a voulu, comme il le disait, s'ériger en général, alors que les États-Unis voulaient de lui un secrétaire. C'est ce qui explique d'ailleurs ce bras de fer qu'il a eu avec Madame Madeleine Albright, l'ancien secrétaire d'État américain, qui avait tout fait auprès du président Clinton en interceptant tous les appels qu'il recevait pour soutenir la nouvelle candidature et proroger une deuxième fois le mandat de l'ancien secrétaire général Boutros Boutros-Ghali. Elle avait tout fait pour empêcher, d'ailleurs, parce qu'il avait aussi pris part en condamnant l'acte Merci terroriste beaucoup. De... Voilà.
Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, maître. Et Eliatem, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à maître Arnon Develay, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Parole d'experts.
La monnaie chinoise s'affichait mardi à son plus haut niveau depuis plus de deux ans face au dollar américain. Mardi matin, hors de Pékin, la devise cotait 6,43 pour 1 dollar. Il s'agit de son niveau le plus haut depuis juin 2018, juste avant le début des hostilités commerciales lancées par les États-Unis contre la Chine. Comment peut-on analyser ce renforcement du yuan face au dollar américain ? Xavier Dupré, économiste et analyste belge, nous répond.
Alors, je crois que dans cette appréciation significative du yuan, il y a plusieurs éléments qui interviennent à titre de facteurs explicatifs. Il y a des facteurs de court terme. Je pense qu'il y a une réaction des marchés par rapport à l'instabilité latente aux États-Unis. Les manifestations de ces ligues factieuses au Capitole ne disent rien de bon sur la stabilité, en tout cas pour l'heure, à court terme aux États-Unis. Il y a aussi des facteurs, à mon sens, plus significatifs, qui sont des facteurs de long terme. Il y a tout d'abord le fait que, contrairement aux États-Unis, la Chine ne souffre pas de problème d'endettement public majeur, dans la mesure où, face à ses dettes, elle possède un matelas de réserve de 3 000 milliards de dollars, qui est effectivement impressionnant, et qui fait qu'aujourd'hui, nous autres en Europe, par exemple, nous comptons beaucoup sur les investissements chinois pour relancer la machine économique. Ce n'est inscrit pour personne. Autre facteur de long terme, c'est aussi la montée en gamme, en termes de valeur ajoutée, de l'économie chinoise. L'économie chinoise, aujourd'hui, en Chine, ça, on va fabriquer, par exemple, pour le groupe PSA, la grosse voiture premium, donc la voiture de luxe d'une marque française, DS, la DS9. Ça veut donc dire que les Chinois maîtrisent vraiment, depuis l'entrée de Dongfeng, en l'occurrence au sein du capital de PSA, sont capables de maîtriser des chaînes de valeur de plus en plus importantes et qui sont des chaînes de valeur ajoutée qui placent la Chine clairement en vis-à-vis, en égal, des grandes puissances occidentales industrialisées. Pour toutes ces raisons, le yuan est appelé à connaître structurellement un brillant avenir. Et lorsque je parle à des investisseurs africains, eh bien de plus en plus, ils veulent avoir accès à des yuans bon marché. C'est important pour eux. On compte déjà des yuans, par exemple, dans les réserves d'un grand pays émergent en Afrique comme le Nigeria. Alors évidemment, je vous ai parlé du yuan, en face il y a le dollar, et il y a toutes les choses dont je vous ai parlé. Un endettement, des déficits qui sont récurrents, et des déficits jumeaux, c'est-à-dire à la fois un déficit du commerce extérieur et un déficit du budgétaire, déficit fiscal, comme on dit aux États-Unis. Et ça, c'est récurrent. C'est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis la fin des années 70, au début des années 80. Nous avons aussi des facteurs structurels et productifs de long terme. L'économie américaine est une économie qui s'est profondément désindustrialisée. Ce qui veut dire qu'on produit de moins en moins de valeur ajoutée aux États-Unis et les activités spéculatives ont pris davantage de poids, de place et d'importance au sein de l'économie américaine. Or, ce modèle est entré en crise lors de la grande récession, la grande crise financière de 2007-2008. C'est une crise financière qui commence à l'été 2007 et trouve son point culminant en octobre 2008 lorsque la quasi-totalité des banques occidentales était en faillite pour avoir tout simplement acheté trop de prêts subprime auprès des marchés américains. Depuis, si l'on regarde l'évolution des relations interbancaires et plus précisément des relations entre les banques centrales et les banques privées, on s'aperçoit que depuis 2008, sans les prêts à taux très avantageux dans le cas des États-Unis, de la Fed, dans le cas de l'Europe, de la BCE, les systèmes bancaires occidentaux n'arrivent pas à tenir tout seuls. Ils ont besoin de cette béquille pour avancer. Ça signifie que tout un modèle de capitalisme néolibéral et financiarisé, que l'on pourrait opposer à ce qu'est la Chine aujourd'hui, un capitalisme d'État basé sur de l'industrie et de l'ajout de valeur sur des productions concrètes, eh bien ce système-là est globalement en crise.
La marche vers le sionisme, normalisation ou officialisation. Les accords de Camp David, signés le 17 septembre 1978 entre l'État égyptien et le régime sioniste, furent suivis le 26 mars 1979 par un traité de paix entre ces deux derniers. 16 ans plus tard, l'exemple égyptien est suivi par le Royaume de Jordanie, le 26 octobre 1994. Ce sont les premières normalisations. Par normalisation, comprendre action de normaliser, c'est-à-dire se soumettre à des normes. Depuis, la liste des pays arabes normalisés s'est enrichie de nouveaux membres. Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le jeudi 10 décembre, le Maroc. Concernant le dernier État, nous y reviendrons pour des raisons symboliques et stratégiques cruciales. Il faut souligner cependant que, mis à part l'Égypte de Jamal Nasser, les États cités avaient des relations non officielles avec l'entité sioniste. Et donc, le terme qui convient pour qualifier cette normalisation est donc « officialisation ». Il est néanmoins important de rappeler les événements historiques qui ont ouvert la voie vers l'entité sioniste. Indéniablement, l'effondrement de l'Union soviétique fut le déclencheur. Sur ce point, le mouvement politique inféodé au monde anglo-saxonne et parrainé par les monarchies du Golfe Persique joua un rôle fondamental en Afghanistan. La guerre menée par Saddam Hussein contre l'Iran libérait de la domination des États-Unis. Une guerre qui ne peut s'expliquer que par la folie des grandeurs de Saddam Hussein avec la bénédiction des puissances occidentales et des monarchies du Golfe Persique. Une guerre qui a débouché sur la première guerre du Golfe Persique et à partir de 2003, la deuxième guerre du Golfe Persique avec occupation politique et militaire anglo-américaine de l'Irak. La question israélienne du Liban en 2006, la destruction de la Libye en 2011 par l'État français et anglais sous tutelle otanienne. Sans oublier les accords d'Oslo signés par l'Organisation de libération de la Palestine en 1993 avec Israël et oubliés depuis, sont également un facteur important dans la libération des mœurs politiques des classes dirigeantes arabes. Exception faite du Liban, de la Syrie et du Yémen. Dans tous ces événements historiques, et en premier, la première guerre du Golfe Persique, la Ligue arabe n'assuma pas sa responsabilité, à savoir résoudre la question de l'occupation irakienne du Koweït dans le cadre de la Ligue arabe. Au contraire, la majorité de ses membres furent les supplétifs de l'impérialisme sous étendard de l'OTAN. De même, pour la Libye, ni l'Algérie ni l'Égypte, encore moins le Maroc, n'ont joué le rôle qui aurait dû être le leur. Intervenir militairement et politiquement afin d'imposer une solution politique régionale. Pour cela, il fallait avoir le courage d'agir avant l'architecte du nouveau Grand Moyen-Orient pour servir la stratégie du régime sioniste, à savoir l'OTAN. Ironie de l'histoire, abandonnée, la Libye est livrée, entre autres, à un ancien occupant d'une partie du Maghreb, la Turquie. À défaut de courage politique, la soumission. Il est temps de revenir au point crucial. L'officialisation des relations entre l'entité sioniste et le Maroc et dans un même élan, la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis. Reconnaissance qui n'efface pas la résolution d'autodétermination du Sahara votée en 1974 par l'ONU et acceptée par l'État marocain. Il est important de souligner que l'État marocain ne fait qu'acheter ce qui lui appartient. Un achat soumis à des conditions politiques qui affaiblissent paradoxalement cette marocanité historique. Bref, les résolutions de l'ONU ont le poids que leur donne l'impérialisme. Et sur ce sujet, le peuple palestinien a une longue expérience. Mais cela n'empêche pas la classe dirigeante marocaine de jubiler parce que cette propriété marocaine est enfin reconnue marocaine par les États-Unis. Et dans un même temps, on efface de la mémoire Abdelkrim Khattabi, Mehdi Ben Marco, Omar Ben Jeloun, en déchirant la page. La Palestine est une cause nationale. Car on ne peut pas être plus palestinien que les Palestiniens, dit le ministre marocain des Affaires étrangères, sans préciser de quel Palestinien il s'agit. En effet, l'étendard Palestine, une et indivisible, avec El-Rots comme capitale, est toujours brandi en Cisjordanie et à Gaza. Ceci énoncé, ce n'est pas parce que l'esclave accepte d'être esclave qu'il ne peut pas dénoncer l'esclavage. La classe dirigeante marocaine jubile sans se poser la question du pourquoi de cette clémence américaine. En effet, pourquoi détruire la Libye, la Syrie, le Yémen et être clément aujourd'hui avec le Maroc? Applaudir la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara revient à s'interdire de dénoncer l'autorité reconnue à l'entité sioniste par l'impérialisme américain sur le Golan, Herotz, etc. La réponse à la question « pourquoi ?» se trouve dans le nouveau Grand Moyen-Orient de l'Irak, au Maghreb, planifié par l'impérialisme américain pour servir la stratégie de l'entité sioniste. Et que dire de la classe dirigeante algérienne? En ne reconnaissant pas la marocanité du Sahara en 1973, l'État algérien a permis à l'impérialisme et au colonialisme occidental d'utiliser la question du Sahara comme moyen de pression et, le jour venu, comme monnaie d'échange. Une reconnaissance algérienne qui aurait pu être assujettie à des conditions géopolitiques régionales, dont l'édification du Maghreb. À commencer par une coopération économique maghrébine dont les peuples tunisiens, mauritaniens, algériens et marocains sont orphelins. À n'en pas douter, la reconnaissance de l'entité sioniste par l'État marocain va aggraver la situation politique et militaire régionale. Déjà sous haute tension, elle vient de passer à un cran supérieur. La mèche est prête. Il faut espérer que la voix de la résistance et le vent d'espoir qui souffle à Beyrouth et à Damas atteignent un jour les pays du Maghreb. Le malheur fait rire, dit un dicton maghrébin, puisqu'à l'unisson, les pays du Maghreb, Tunisie, Mauritanie, Algérie et Maroc ont imposé à l'UNESCO d'inscrire le couscous, plat du pauvre, au patrimoine culturel de l'humanité. Est-ce le premier pas vers la fondation du Maghreb ?